Salut tout le monde, bienvenue au podcast Coup Critique en format vidéo ou en format audio, tout dépendant de comment vous l'écoutez. Je m'appelle Francis, je suis avec Pierre-Philippe. On est super content de vous retrouver encore pour une semaine. Une grosse semaine. Une grosse semaine, on a beaucoup de stock à vous parler. On avait hâte. On a manqué une semaine, puis déjà, on ne souffrait plus. On trouvait que ça faisait comme 1000 ans qu'on ne s'était pas parlé.
Oui, c'est ça, exactement ça. On a fait la référence à un vieux couple qui ne s'est pas vu depuis un bout de temps, puis on trouvait ça bizarre.
On est constamment en train de s'écrire, puis à voir des nouveautés, puis à parler de jeux de rôle. Puis là, on est en train de préparer encore plus de belles affaires. Puis là, on est super excités. En tout cas, là, ça va être vraiment cool. D'ailleurs, en parlant d'affaires pour Coup Critique, beaucoup de choses. Merci d'abord à tous nos nouveaux abonnés. Tranquillement, on est vraiment en train d'avoir de plus en plus de gens qui nous regardent, puis on découvre plein de nouvelles personnes qui trippent ces jeux de rôle, qui veulent participer, qui engagent dans tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. Tu sais, on fait ça parce que Pierre-Philippe et moi, on aime ça juste parler de jeux de rôle, puis il faut qu'on en parle. Tu sais, on n'est pas payé pour faire ça. On fait juste comme créer du contenu, puis on veut comme juste plus explorer ça avec vous autres. Puis je sais qu'on en a parlé beaucoup, mais spoiler, on veut vous présenter beaucoup de jeux bientôt. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. D'ailleurs, on a lancé un sondage sur notre page Facebook il n'y a pas longtemps. On vous invite à aller consulter la page Facebook puis de répondre au sondage. Merci d'abord à toutes les personnes qui nous ont répondu. Franchement, c'était le fun de voir vos réponses, de voir où on peut s'en aller, qu'est-ce que vous voulez voir. Puis justement, ça vous donne plus de pouvoir aussi dans ce qu'on va faire. On veut créer du contenu, que ce soit pour des projets futurs ou juste en quelle proportion de type de contenu que vous voulez voir le plus sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à remplir le sondage, c'est vraiment cool. Juste avant qu'on enregistre cet épisode-là, les Emmys sont passés. En fait, c'est comme une espèce de récompense pour tout ce qui se fait en termes de jeux de rôle un peu partout à travers le monde. Puis, je pense que Pierre-Philippe, tu es un devin parce que depuis que tu es arrivé, tous les jeux que tu nous as parlé sont quasiment tous été en nomination ou ont gagné dans les Emmys de cette année. Tu as même trouvé les deux meilleurs jeux de l'année. En fait, on peut passer un peu à travers la liste. D'abord, les deux meilleurs jeux de l'année cette année, Alien the RPG que tu as vraiment trippé.
Là, oui, à fond.
Que tu as trouvé vraiment bon puis que tu nous as parlé à longueur. Puis Morkborg, qui est un jeu aussi de Free League Publishing,
oui.
Qui a gagné la médaille d'argent. Donc, on n'en a pas parlé, par exemple, de Morkborg. Peux-tu nous en parler un peu? Je sais que tu as joué.
Oui, ben, en fait, j'ai joué tout récemment avec une gang de gens qui va peut-être avoir une vidéo qui va popper un moment donné. Je préfère pas trop en dire pour l'instant. Mais oui, j'ai joué récemment, puis c'est drôle parce que c'est un jeu que je connaissais un peu de nom, que j'avais surtout vu par le visuel, parce que c'est surtout ça qui vient, on va dire, chercher le client à la base. Là, c'est vraiment le visuel, le design du jeu qui est de toute beauté. C'est un jeu, je te dirais, c'est un livre d'art avec un jeu intégré dedans.
OK.
C'est comme ça qu'il le présente aussi. Dans le sens que le système est très simple, le système est très... beaucoup de zones de gris, beaucoup de zones grises qui se veulent d'être l'interprétation pour le DM, pour résoudre certaines situations, on va dire. C'est c'est très clé en main, que ce soit pour les joueurs également. Ça se joue avec un D20. C'est un système de D20. C'est très inspiré par les old school system RPG, là, les vieux jeux des années 80, où est-ce que tout est un peu débalancé, puis qu'il y a des affaires qui faisaient pas trop de sens, mais c'était pas grave. Tu jouais vraiment pour mourir à la fin de l'histoire, pour être coincé dans un coin, puis te faire ramasser par le boss de la fin, parce que c'était... rapido presto, le jeu, l'ambiance du jeu, c'est très sombre, c'est très dark, c'est un espèce de genre de post-apo fantasy. C'est très punk, c'est sûr.
Ouais,
c'est très, très punk. En fait, le design est très punk, le visuel est très punk, mais aussi le, C'est-à-dire, les thématiques abordées sont très pognes. Tous les personnages sont tout un peu dégueux. C'est toutes des histoires de genre, OK, ben là, on va aller défoncer le sous-sol d'une place parce qu'il y a genre des gens qui capturent du monde pour les manger, puis ils font de la viande avec ils font des tartes avec eux autres. Il y a même une soundtrack officielle du jeu que tu peux écouter en même temps que tu joues, disponible sur YouTube. Okay. C'est genre une espèce de gros synthétiseur années 80 bizarre. Puis de temps en temps, il y a des passes de métal qui embarquent parce que ça se veut. Très nordique métal dans son concept. Et pour vrai, super le fun. J'ai vraiment fou aimé ça. C'est très simple, c'est très rapide à prendre en main. On se casse pas la tête. C'est juste le fun. Je te dis pas que c'est le jeu que je vois, exemple, sortir avec des amis et on se dit on se fait une grosse campagne de Morgborg sur le long terme. Là. Vraiment, okay. Vraiment pas. Mais par contre, pour vrai, là, genre 3-4 chums assis autour d'une table, puis on se fait un petit one-shot de Morgborg, vous pouvez reprendre vos mêmes personnages la dernière fois, puis vous êtes encore vivant, par exemple, puis il va se passer autre chose. T'sais. Puis, et le jeu a plein de tables. Il y a des tables à l'heure pour finir, des tables pour générer des trucs aléatoirement. Et il y a une grosse communauté quand même en ligne sur le site officiel de Morgborg. Vous pouvez ramasser beaucoup de choses gratuites. Des scénarios, des règles optionnelles.
Ah, c'est cool ça.
Oui, vraiment, vraiment cool. Tu sais, des règles de voyage, des trucs. Ouais. Ils rajoutent des prendre le jeu juste un petit peu plus crunchy sans pour autant que ce soit trop compliqué. Il y a même un générateur de personnages que tu fais genre, tu cliques sur un bouton puis ça te génère une des classes présentes avec quelques stats puis tout ça.
Ouais.
Fait que tu ne veux pas te casser la tête. Très beau jeu.
Je sais que le livre est back-order.
Présentement, oui.
Parce que ça a été tellement gros succès. Par contre, le PDF, tu peux l'acheter sur DriveThruRPG. Je pense que c'est une vingtaine de dollars. Fait que pour vrai, ça vaut vraiment la peine. C'est pas plus cher qu'un autre. Puis la réputation est plus à faire. Là. Free League, je veux dire, la moitié du stock de ENI, c'est eux autres qui l'ont gagné. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là.
Oui, exactement ça. Puis je l'ai acheté, le PDF. Là. Je l'ai acheté puis parce que le livre était back-order. Parce que j'étais sur le site internet de Free League, puis j'étais comme... J'ai essayé de cliquer sur le piton pour le racheter dans mon panier, puis j'étais genre, tabarnak! Mais il était back-order, fait que ça va aller. C'est supposé revenir en août. C'est supposé avoir des nouvelles copies en août. Parce que, pour vrai, même si, admettons, c'est un jeu que vous trouviez le fun, mais sans plus, c'est vraiment beau. Là. C'est un beau jeu de collection. Là. C'est un beau livre de collection à avoir chez soi.
En fait, dans tes autres prédictions, A Thousand-Year Vampire, le jeu de rôle qui a eu ce joueur, a gagné plusieurs fois des prix, soit or ou argent, dans différentes catégories. Tu l'avais sûrement recommandé comme quelque chose de vraiment intéressant à explorer, justement, si vous êtes fan du jeu de rôle, mais que vous êtes tout seul et que vous voulez essayer un nouveau type de jeu. Un jeu que j'avais, moi, remarqué en début de... Fin 2019, c'est la maison... Attends, je retrouve le nom. River Horse. Labyrinth, de Jim Henson. L'univers de Labyrinth. Il y a un jeu de rôle qui est sorti. Super bel emballage, super belle direction visuelle. Puis ça a gagné plusieurs prix, comme dans Cartographie. Ça a gagné quoi? Ça a gagné...
Je pense que ça a gagné Best Family Game, une affaire comme ça.
D'ailleurs... dans Best Family Game, il y avait aussi Kids on Bikes, mais l'extension Aventure 2. Fait que déjà, on voit que l'engouement de Kids on Bikes aussi est assez intéressant.
Oui, si tu me permets aussi, je viens de le remarquer, en fait, là, je l'ai devant moi. Là. Dans Best Family Game, il y a Quest, juste en dessous de Kids on Bikes.
Ouais.
De TC Sotek, qui est un Kickstarter à la base, que j'ai pas Kickstarté, mais qu'un ami à moi a Kickstarté, puis qu'on a essayé. Pour vrai, je trouve ça cool. Je viens de l'avoir passé justement dans le contexte d'un jeu familial. Puis pour le reste, c'est le cool pour un jeu familial. C'est un beau jeu. C'est vraiment du fantasy super classique.
OK.
Mais c'est très... ça se génère... c'est très généré aléatoirement. Puis il y a beaucoup de participation avec le DM et les joueurs pour faire la création de l'univers et la création des défis qui vont s'en suivre. Puis pour de vrai, ça, je suis content de le voir là parce que c'est vraiment un très beau jeu visuellement, c'est super beau. C'est pas du tout compliqué, on s'entend. C'est pour ça qu'il est dans Best Family Game. Mais pour des parents, exemple, qui veulent introduire leur enfant au jeu de rôle, je trouve que c'est une bonne idée. Je le vois, puis je dis c'est une bonne idée. T'sais, j'ai pas essayé Jim Henson Labyrinthe, que je suis sûr que ça doit être écœurant. Mais Quest était très cool aussi.
Ouais. Chose qu'on s'est pas parlé avant, Pierre-Philippe, mais il y a aussi eu Gen Con qui s'est passé un peu avant. Moi, dans le cadre du Gen Con, écoute, c'est annoncé tellement de jeux, là, ça n'a pas de sens. Ça. Des jeux de société, des jeux de rôle, des plein d'affaires. Moi, j'ai vu une annonce autour du Gen Con, mais c'est comme un Kickstarter. je crois. Okay. Un jeu de rôle de Hellboy.
Écoute, je voulais en parler.
Je voulais en parler.
Ça, c'est,
j'ai des frissons. Quand j'ai vu l'artwork du comic book, j'ai fait OK.
Mais oui, je voulais l'aborder parce que j'ai vu, je pense que c'est le 18, le 18 août prochain, ça part en Kickstarter. Et je vais backer ça day one. Là. C'est sûr et certain. Il n'y a rien qui va m'empêcher de faire ça. Il va falloir que tu me coupes les bras si tu ne veux pas que je fasse ça.
Il y a déjà un bras qui est un peu en roche.
Ah oui, c'est ça, il y a déjà un bras qui est un peu en roche. Mais tu sais, pour dire que c'est vraiment, là, je trouve tellement que c'est un bel univers à explorer. Puis ça existait déjà en jeu de rôle, un vieux livre qui date de plus de 20 ans, des règles de GURPS. C'était un peu compliqué. Là. Fait que je te dirais que personnellement, je ne sais pas si Hellboy, je trouve que c'est le système de la 5e édition, c'est la meilleure chose qui est adaptée pour ce jeu-là. Par contre, ça fait en sorte que ça va ouvrir beaucoup de portes à de l'adaptabilité parce qu'on est très à l'aise avec la 5e édition. Puis on sait quand même aller chercher du homebrew à gauche et à droite vraiment facilement. Fait que je ne sais pas si c'est le meilleur système de règles pour l'univers, sauf que ça permet beaucoup de choses. Fait que j'ai vraiment, vraiment très hâte de voir.
J'imagine plein d'utilisations de monstres de
ben oui, 5e édition
qu'on peut très facilement transporter dans divers espèces urbains, contemporains, underground. Monstres qui sortent des abîmes des enfers. T'sais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui va être utilisé aussi dans cette conversion-là, là, mais pour vrai, ça risque d'être vraiment cool. Ça fait un peu le tour de ce qui s'est passé, actualité, jeu de rôle en ce moment. Moi, mon sujet d'aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'est de. En fait, je voulais vous parler de trois produits parce que moi, je suis un fan de Donjons & Dragons, c'est à ça que je joue principalement. Puis en ce moment, je suis en train de me monter mon propre monde, ma propre campagne. Je me prépare. Puis tant qu'à le faire, j'explorais beaucoup des ressources homebrew ou des ressources de tierce partie, de règles ou d'ajouts qui sont intéressantes à mettre dans des campagnes. Puis j'ai trouvé trois créations que je voulais vous partager aujourd'hui que je trouve vraiment cool. La première que je vais vous parler, c'est un produit qui est fait par Heavy Arms. C'est écrit par un auteur qui s'appelle, j'essaie de retrouver son nom, mais bref, c'est Heavy Arms. Puis le livre s'appelle The Complete Armor's Handbook. C'est disponible sur DM's Guild. Ce que c'est, en fait, c'est un supplément qui apporte tout un nouveau système de règles et de upgrade, si on veut, d'amélioration des armures et des armes dans Donjons & Dragons 5e édition. Où je trouve que c'est vraiment pertinent, c'est, tu le sais comme moi, Donjons & Dragons, si tu as un scimitar puis que tu as une half-plate, ben c'est ça que tu as. À moins que tu trouves une version magique de ça, ou un plus 1 ou un plus 2 ou des trucs comme ça, ça reste que c'est ça que tu peux avoir pas mal comme protection, comme arme ou trucs comme ça. Ce que ce livre-là apporte, c'est toute une mécanique pour que si les joueurs veulent, par exemple, faire des upgrades sur des choses qu'ils ont, ou construire des armures, ou amener de la magie, infuser de la magie dans des items, puis des trucs comme ça, comme des runes, utiliser des matériaux comme, par exemple, des écailles de dragon pour se faire une armure, des trucs. Il y a tout un système, c'est super bien détaillé, il y a des bonnes pistes pour les DM. C'est vraiment bien expliqué. Beaucoup de tables, beaucoup de choses vraiment intéressantes là-dedans. Je vous le conseille. The Armor's Handbook, j'ai adoré. Il est très bien écrit en plus. C'est vraiment un beau livre. Je vous le conseille. Pour vrai, moi, une des premières choses que quand je roulais comme DM, je roulais Lost Mines of Endeavor. Puis il venait de tuer, spoiler, il venait de tuer un dragon. Il est sur le cover, là, je ne fais pas le saut. Mais...
Non, je suis en France.
Mais il disait, qu'est-ce qu'on peut faire avec le dragon? Là, j'étais comme, ben attends, là. T'sais. Puis là, il dit, ben, je veux récupérer les écailles et les trucs. Puis là, c'est en faisant de la recherche là-dessus, je dis, Christ, il y a comme un système qui existe, là, puis il y a du monde qui ont pensé, puis c'est vraiment bien fait. Puis le livre a eu beaucoup de bonnes cotes avec plusieurs DM aussi. Là. Donc, je vous conseille. Complete Armor's Handbook par Heavy Arms.
Est-ce que tu dis qu'il est possible en PDF sur DraftThruRPG, est-ce que tu peux avoir l'option de l'avoir physique
ou pas? Non, celui-là, par exemple, il est seulement disponible en PDF sur DM's Guild. Pour ça, c'est ça. Le deuxième livre que je vais vous parler, c'est un livre qui a eu beaucoup de popularité. C'est le premier livre, en fait, officiel de Matt Colville, que peut-être que vous connaissez, qui fait beaucoup de vidéos YouTube, qui donne des conseils de DM. C'est un auteur de plusieurs jeux vidéo, plusieurs jeux. Il a écrit sur plein d'affaires. Puis c'est son premier livre qui s'appelle Strongholds and Followers. Dans le fond, c'est tout. C'est encore au niveau des mécaniques, puis au niveau de pistes pour tout ce qui est les forteresses ou les espèces de constructions, les habitats que vos héros peuvent se munir. Par exemple, si votre groupe décide d'avoir un château, puis d'avoir de gérer, il y a tout un système de règles puis de choses. Comment ils vont chercher les terres pour le bâtir? Combien de temps ça prend? Combien ça coûte? Qu'est-ce que une forteresse peut offrir comme protection magique ou protection comme armement? Mais il n'y a pas juste des châteaux. Il y a comme des théâtres, il y a des tours. Il y a comme plein de choses qu'on veut explorer. Moi, je trouve ça vraiment cool, justement, parce que, par exemple, si vous suivez Critical Role, là, ils ont souvent eu une maison ou une espèce de repère où ils se regroupaient. J'ai toujours aimé cette idée-là que, tu sais, le groupe, quand ils ont fini, là, quand ils veulent prendre un break, ben, ils veulent aller quelque part. Ben, ils peuvent avoir leur propre chez-soi, mais c'est pas obligé d'être plate. C'est pas obligé d'être l'auberge tout le temps. Ça peut être quelque chose en cours de route qui acquiert puis qui se met à mettre des upgrades là-dessus. Puis l'autre volet du livre, c'est tout au niveau des followers. Si vous avez, par exemple, des gens qui travaillent dans ce repère-là, mais aussi, mettons, un peu comme les sidekicks de Donjons de Dragons 5e édition, mais il y a des alliés. Comment gérer tous ces gens-là qui peuvent graviter autour de votre équipe, là, tu sais, puis comment ils peuvent les aider? C'est vraiment cool. Puis il y a même une petite aventure là-dedans d'aller assiéger un château qui est pris par un ennemi, puis peut-être s'en faire soi-même ce château-là qui irait à votre party. Là. Mais tu sais, il y a tout ça là, qui est vraiment intéressant. Ça a été écrit par Matt Colville, mais il y a eu beaucoup de monde qui a participé. La signature visuelle est vraiment très belle. Je vous le conseille, c'est pas très cher. Cela, par exemple, vous pouvez l'acheter en PDF, mais vous pouvez aussi l'acheter en hardbook, puis le hardbook est vraiment très beau aussi. Il est en train de sortir un autre qui s'appelle Kingdom and... maudit, ça m'échappe. Mais bref, le projet Kickstarter vient de finir. Ils sont en train de travailler à la publication du livre. Matt Colville, pour vrai, j'y ferais confiance après ce livre-là. C'était vraiment cool.
Kingdom Warfare and More Minis.
Exactement. Kingdom and Warfare, oui. Puis il y a beaucoup de miniatures aussi là, qui étaient possibles d'acheter en rapport avec le deuxième livre. Puis le dernier livre, je fais ça très bref, là, c'est fait par Jetpack 7. C'est un regroupement d'auteurs. Ça s'appelle Legendary Dragons. Pourquoi je trouve ce livre-là super pertinent? C'est que, de mon expérience, à chaque fois que je suis entré en combat ou j'ai entendu parler d'un dragon, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'assez explorer justement comment ce dragon-là pensait ou évoluait ou s'il avait de la personnalité. Mais ce livre-là, ce que ça offre, c'est une série de dragons. Des dragons de tout azimut, que ce soit de couleurs chromatiques, métalliques ou des bons, des méchants, des gentils. Mais ça en fait, il y a vraiment des belles fiches descriptives qui peuvent donner beaucoup de chair à l'entour de l'os à justement une espèce de personnage aussi qui a vraiment beaucoup de présence et d'impact dans une campagne. Tu sais. Ça peut être vraiment cool d'avoir ça autant comme un big bad evil guy que juste un allié aussi. Tu sais. Mm-hmm. Puis ils ont toutes des personnalités qui peuvent être explorées. Ils ont toutes, il y en a un, là, tu sais, genre c'est un dragon qui est fou de bière. Tu sais, c'est un brasseur, c'est comme une espèce de dieu de l'alcool. Puis là, il utilise ses pouvoirs de dragon pour comme avoir des espèces de grandes marmites qui font de l'alcool. C'est aussi pété que ça, autant que des espèces de dragons, des Lich Dragons, des espèces de dragons squelettiques vraiment evil. Puis il y a des descriptions, il y a des stables, il y a l'histoire du. Il y a aussi toutes les lairs, là, tout ce qui est leur espèce de. D'habitat, là, tu sais, mm-hmm. les effets qui peuvent être attaqués comme vos équipes. Ça, tout ce que je viens de vous parler, c'est 5e édition. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'incorporer ça puis de jouer ça à votre sauce dans d'autres systèmes de jeu. Mais Legendary Dragons, vous pouvez l'acheter en version Deluxe. Il y a un DM Screen, c'est en Artbook. C'est aussi disponible sur DM's Guild, je pense, ou DriveThruRPG. C'est pas leur premier livre. Ils en ont fait plusieurs, des bons livres de suppléments qui incorporaient des monstres, des trucs comme ça. Mais celui-là, parce que moi, si je joue à Donjons Dragons, je veux... C'est ça comme DM, je veux... C'est sûr, je vais avoir un dragon dans mes affaires. C'est comme un...
Ça dit dans le nom.
Mais tant qu'à juste prendre Ancient Red Dragon, je préfère prendre un dragon qui a un nom, qui a une histoire, ouais, qui a des motivations, qui peut jouer dans la tête de mes personnages autant qu'il peut être un ami, un allié, c'est tout dépendant de leur but. Bref, trois belles ressources. On va mettre les liens dans la description du podcast, que ce soit sur notre site Internet ou Facebook ou... YouTube, mais allez jeter un coup d'œil. Puis en même temps, c'est pas très cher quand vous l'achetez en PDF. Mettez ça sur votre iPad ou votre tablette, lisez ça à temps perdu. Inspirez-vous de ça. Je suis sûr qu'il y a des belles choses qui peuvent ressortir pour vos campagnes. Fait que c'est pas mal ça, mon segment cette semaine.
Ouais, je trouve ça très cool parce qu'il l'avait à la 3.5 à Donjons & Dragons. C'était le Draconomicon, ça s'appelait.
Oui.
Puis je trouvais ça vraiment cool comme livre. Puis justement, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que ça demeure que c'est comme c'est une créature iconique quand même de l'univers, du setting. Puis c'est le fun de pouvoir avoir un peu plus d'options concernant ça, que ce soit lore, que ce soit capacité, stats, peu importe, dans un livre, même si c'est un livre de tierce partie, comme on dit.
Oui. Mais ouais. Ce que j'aime, c'est que ces livres-là aussi... vont pousser le jeu encore plus loin. Mm-hmm. Puis moi, ce que ça fait, c'est que ça me donne encore plus le goût de jouer quand je dis des affaires comme ça, parce que je fais OK, je pourrais comme avoir cette intrigue-là parce que ce dragon-là, il fait ça. Puis après qu'ils battent le dragon, ils pourraient utiliser leur grotte puis en faire une espèce de repère. Puis, tu sais, on dirait que je vois où je peux inclure tous les ajouts que je trouve. Là, puis ça. Toi, Pierre-Philippe, je pense que tu voulais me parler de plusieurs. Jeu de rôle,
oui.
comme ton segment habituel.
Oui, mon segment. Écoute, je vais essayer de faire changement une fois à un moment donné, parce que je vois-tu aussi, moi aussi, à un moment donné, j'aimerais ça, à un moment donné, aborder des trucs, justement, plus en lien avec D&D, probablement des livres de tierce partie aussi que j'ai trouvé intéressants. Là. Mais non, pas cette semaine, pas encore. Parce que cette semaine, dans le fond, je vais parler d'un genre dans le livre de jeu de rôle qu'on ne voit pas nécessairement tant de l'avant. On a beaucoup de l'horreur, même à la limite, la science-fiction, le fantasy, ouais. C'est comme le gros morceau. Mais le genre, on va dire, héroïque, super héroïque, super-héros, le jeu de super-héros, c'est un genre que je trouve qui n'est pas mis souvent de l'avant. Outre, on va dire, le plus gros du milieu que je crois que tout le monde connaît qui est Mutant et Mastermind, qui est probablement le jeu de rôle de super-héros le plus connu. Je crois, à moins que tu me dises le contraire.
Mais moi, c'est un que je connais, puis que j'ai feuilleté, puis que justement, ça m'intéresse d'y jouer. Par exemple, j'ai jamais joué. Fait que je ne sais pas à quel point les mécaniques sont intéressantes ou pas.
C'est vrai que Mutant et Mastermind, c'est ça qui est drôle, c'est que là, je te parle de jeu de rôle de super-héros, mais Mutant et Mastermind, je n'y ai jamais joué. J'ai commencé à le feuilleter. Je trouvais cool le fait que qu'il y ait beaucoup de ressources, qu'il y ait beaucoup de livres en soi de ce jeu-là. Beaucoup de stock pour y aller à plein de sauces différentes, que ce soit super-héros plus style film noir des années 20 et 30 ou même super-héros vraiment full pin, gardien de la galaxie dans l'espace, des choses comme ça. Je trouvais ça cool, mais je trouvais que le système avait l'air un poil trop... on va dire crunchy pour moi, là, j'étais comme pas sûr, là. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui me rebute, là, même si je suis sûr que c'est bien bon, on dirait que j'aurais le goût de jouer à ce jeu-là avec quelqu'un qui le connaît déjà beaucoup, qui pourrait me montrer comment ça marche, parce que c'est le genre de jeu que je pense que j'aurais de la difficulté, moi, en tant que newbie, à comme bien maîtriser déjà. On dirait que je pense que je l'essayerais comme joueur pour commencer, avant de l'essayer, disons,
Bayern. Comprendre les mécaniques.
Oui, exactement. Mais sinon, je vais quand même parler de d'autres jeux que je voulais mettre de l'avant, parce qu'il y en a un que je viens de recevoir en fait en PDF. Fait que ça m'a comme donné le goût en fait de me partir là-dessus. Mais outre Mutant et Mastermind, Francis, est-ce que tu connais d'autres jeux de rôle portant sur les super-héros?
Ben, il y en a un en ce moment que j'explore. Je ne sais pas si on pourrait l'appeler un jeu de super-héros. mais City of Mist.
Oui.
Il y a un côté très, je trouve, super-héros,
oui.
mais plus dans le côté policier.
Oui.
Je ne sais pas si tu allais en parler de
oui,
de
City of Mist. Ça fait, oui, ça fait partie.
OK, je te lance là-dessus, mais moi, j'ai un coup de cœur en ce moment. Okay. Je veux tellement essayer ce jeu-là, ça a l'air malade.
Et, mais j'aimerais ça justement parce que je trouvais que, tu sais, outre ce que j'ai lu un peu sur Steve Miss, je ne l'ai pas lu encore tant que ça. J'ai regardé un petit peu, je trouvais que ça avait l'air cool. J'ai eu des feedbacks positifs à gauche, j'ai eu des feedbacks moyens à droite, mais tu sais, globalement, c'était surtout très positif. C'est ça, tu sais, c'était vraiment plus ce style film policier. On est vraiment plus dans le genre des, tu sais, des séries de Marvel, mais qui passaient sur Netflix, le Daredevil, puis Jessica
ouais,
Jones. Puis
ça c'est beaucoup plus urbain.
Ouais, beaucoup plus ouais. urbain, beaucoup plus recherche, enquête, avec des twists justement super-héroïques un peu à gauche et à droite.
Ouais.
Mais outre ça, j'ai pas vraiment tant regardé que ça, fait que je serais curieux d'avoir en fait ton opinion ouais. sur le jeu.
Ben en fait, City of Mist, c'est... Si vous avez lu la bande dessinée Fables, ou que vous avez joué à... Il y avait un jeu de rôle de Telltale Games, je pense, qui est inspiré de Fables. Je ne sais pas si ça s'appelait Fables, justement. Mais...
C'était ouais, The Big Bad
The Wolf ou... Among Us.
Wolf Among Us, oui, c'est ça.
Ouais. C'est un peu sur cet univers-là. En fait, quand vous jouez à City of Mist, vous incarnez, comme personnage, vous incarnez un humain qui a une occupation. Vous êtes un docteur, un vétérinaire, un livreur, qui vous voulez. Vous habitez dans une espèce de communauté, dans cette ville-là, qui a toujours une espèce de brouillard au-dessus. Puis, dans le fond, au moment où vous commencez votre quête, vous apprenez que vous avez en fait une double vie. Vous êtes l'incarnation de soit une légende, un conte, un personnage de la mythologie. Ça peut être, vous pouvez autant être la représentation, par exemple, du Minotaure que de l'épée Excalibur. Vous pouvez être le petit chaperon rouge autant que Humpty Dumpty, si vous voulez. Tu sais. L'univers de City of Mist a sa propre ville, a des descriptions de quartiers avec des espèces de NPC que vous pouvez rencontrer qui, eux aussi, sont des interprétations de différents mythes ou légendes. Fait que vous jouez à travers ça, mais ça va beaucoup plus policière. Le système de jeu est inspiré du système Apocalypse, mais il y a vraiment une couche de plus au niveau des règles.
Oui, c'est ça, j'avais
beaucoup
vu.
De mécaniques
ouais.
de plus. Ça n'a pas l'air trop compliqué à jouer. Mais moi, je suis tombé en amour avec l'univers. Comment il est détaillé, le artwork, l'inspiration que ça donne. La création de personnages est quand même assez simple. Vous pouvez faire du grab and pick. Il y a surtout une belle progression de personnages, je pense, dans le jeu. T'sais, ça peut faire vraiment du stock à une campagne. Vous pouvez, votre personnage peut genre découvrir de plus en plus de pouvoirs reliés à ses origines. Puis ce qui est le fun, c'est la dynamique de jouer la double vie. C'est que vous êtes peut-être un docteur. Le day-to-day, vous êtes un docteur, mais en même temps, à l'intérieur de vous, vous êtes le méchant loup du petit chaperon rouge, par exemple. T'sais? Puis là, c'est de jumeler cette vie-là. Peut-être que vous êtes victime d'un coup monté qui essaie de vous mettre. Il y a comme plein de choses qu'on peut explorer là-dedans. Mais il y a beaucoup de... C'est une mécanique très policière. Vous enquêtez, vous investiguez, vous trouvez des pistes. Vous essayez de sauver des gens, de trouver... De sauver votre réputation. Puis... Tout le monde se connaît. Tout le monde sait un peu quel genre de mythe vous incarnez ou pas. Ça peut être vague. C'est comme... Mais tout le monde sait un peu que vous êtes fait partie de la gang. Fait que, ça, c'est d'ambiance d'intrigue. Là. On suggère même de transporter l'univers de City of Mist dans des villes que vous connaissez. Ce qui peut rendre l'intrigue beaucoup plus personnelle puis peut donner des repères vraiment plus tangible à vos joueurs aussi. Mm-hmm. Comme on pourrait être à Montréal. Puis encore là, le livre de règles est sorti, mais ils ont annoncé des chemins d'aventure aussi. Faut carrément des espèces d'intrigues, des modules, si on veut, d'aventure de City of Mist que vous pourrez okay. inclure puis jouer avec comme DM. Fait que pour vrai, c'est vraiment
okay. Justement, serais-tu plus porté, toi, en tant que DM, serais-tu plus porté à, disons... animer une aventure de ton cru parce que il y a tellement comme de possibilités en termes de folklore, en termes de mythologie, ou tu serais plus curieux d'essayer de voir un des modules qu'ils ont fait eux-mêmes?
Mon premier réflexe, c'était de ne pas t'essayer les modules et Puis je trouvais qu'il y avait tellement une bonne description de quartier, surtout. Mm-hmm. Tu sais, comme ils ont fait leur ville fictive, il y a comme un quartier chinois, un quartier italien, le quartier du commerce, la bourse, les coins plus mal famés. Puis tu sais, il y a comme tout ça. Puis tu te rends compte que pas mal toutes les grandes villes à travers le monde ont à peu près cette espèce de dynamique-là. Fait que, puis il y avait beaucoup de pistes d'aventure ou de trucs qui peuvent se passer que j'aurais pu jazzer dans mon univers, si on veut.
Okay.
Je pense que c'était la force de ce livre-là aussi, c'est que ça donnait beaucoup les clés à prenez-le puis faites ce que vous voulez. Puis il y a même un starter set qui est disponible en download PDF que okay. Vous pouvez essayer. Il y avait même un truc gratuit aussi, une espèce de basic rules de City of Mist que vous pouviez jouer. Pour vrai, c'est vraiment okay. Cool.
Mais c'est pour ça que je te posais la question, justement, parce que dans mes recherches de jeux de rôle sur les super-héros, je suis tombé sur beaucoup de jeux de rôle qui avaient souvent des univers déjà préconstruits, où est-ce que ça encourageait beaucoup de jouer dans leur univers, ou apportait un style vraiment précis, comme City of Mist, qui a un... Tu sais, c'est super-héros, mais avec tout le temps toujours une touche un peu plus policière qui embarque.
Ouais. Je pense que la mécanique du jeu influence beaucoup vers le côté policier aussi.
Okay.
Fait que dans le fond, si vous êtes un DM, vous n'avez comme pas le choix d'explorer le côté intrigue, développement, il y a un mystère, tu sais. Puis vous jouez autour de ça.
Okay.
C'est du bon stock pour des campagnes plus narratives, surtout, je crois,
ouais.
Comme style de jeu. T'sais, ça va être moins du combat. Ça va être, il va en avoir, mais ça sera pas comme du D&D. Là, ça va être plus trouver des indices, négocier, intimider, persuader, utiliser vos pouvoirs pour influencer les gens ou vous sauver des situations.
C'est tout ça. Okay. C'est intéressant parce que là-dessus, c'est pas le seul jeu qui est... qui pas le jeu de super-héros qui utilise, en fait, on va dire comme base, le système « Powered by the Apocalypse ». Parce que justement, dans les jeux que j'ai cherché, j'ai trouvé, il y avait « Mask, a New Generation », une nouvelle génération, qui est, dans le fond, un jeu de rôle de super-héros, mais qui va vraiment plus donner une ambiance à la Teen Titans, comme la série qu'il y avait dans le temps, où ouais. Que tu joues plus des jeunes super-héros. Et alors que tu dis, exemple, que City of Mist va beaucoup tourner sur l'aspect investigation, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, dans exemple, Mask, oui, il va y avoir des combats, des super-héros, vous allez vous battre contre des super-vilains, puis vous allez empêcher le barrage de s'ouvrir et de faire couler la ville. Bref, tu sais, le gros classique. Sauf que le jeu met aussi beaucoup l'emphase sur la relation entre les personnages, dans le sens entre la relation dans l'équipe de super-héros, sur leurs valeurs, sur comment est-ce qu'ils perçoivent en fait le monde qui les entoure, comment est-ce que le monde les perçoit également, parce qu'il y en a
leur rôle dans la société,
leur rôle dans la société et tout ça. Et fait que je trouve ça intéressant qu'il y ait comme plusieurs settings, si on veut, plusieurs jeux de rôle de super-héros qui vont utiliser quand même la même base de Powered by the Apocalypse, parce que justement, c'est un système de jeu qui est assez modulable, qui peut être utilisé à toutes les sauces quand même. Il existe un bon nombre de jeux qui utilisent ça. Puis il y en a même un autre que j'ai trouvé qui s'appelle Worlds in Peril, qui est dans le fond un autre jeu Powered by the Apocalypse de super-héros, qui celui-là est vraiment beaucoup plus, de ce que j'en comprends, beaucoup plus générique, dans le sens que tu vas jouer, c'est très collaboratif, là. Ou est-ce que c'est vraiment très classique, super-héros? C'est super-héros qui ont des super-pouvoirs et qui vont probablement de l'époque, je sais pas précisément si s'ils sont plus inspirés du Golden Age, des super-héros ou autre chose, là, mais c'est vraiment, c'est pas précisé sur un sous-genre, là, c'est pas horrifique dans sa sous-couche où il n'y a pas beaucoup nécessairement d'investigation, ou je pense pas nécessairement qu'ils vont tant avoir l'aspect des relations entre les personnages, probablement moins que Mask. Mais Worlds in Peril, qui en est un autre, qui va en plus, on va dire, dans le classique, dans le genre le plus normal, on va dire, super-héroïque. Et en dehors, on va dire, du système Apocalypse World, ceux que j'ai vus passer, il y en a deux en particulier que je veux mentionner. Il y a, dans le fond, est-ce que tu connais, Francis, ça s'appelle la Brigade Chimérique?
Non.
Ben écoute, pour le reste, c'est vraiment obscur comme je crois, comme genre, en tout cas surtout au Québec. Surtout au Québec, c'est sûr que c'est très obscur. Par contre, c'est français, dans le sens que si vous jamais vous êtes capable de mettre la main sur un des ouvrages physiques de jeu de rôle, c'est en français, c'est pas américain, ça vient de France. C'est ça vient à la base d'une bande dessinée Fait que déjà, le jeu de rôle, la brigade chimérique, a un setting qui est inspiré d'une bande dessinée. Fait que c'est exemple, vous clenchez la BD au complet, bien, vous comprenez globalement l'univers dans lequel les joueurs vont évoluer. Et la brigade chimérique, c'est probablement un des premiers jeux de rôle que j'ai joué, un des premiers jeux de rôle de Spyro que j'ai dû essayer dans ma vie.
Okay.
J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je l'ai fait comme DM après d'avoir justement lu les BD. Et dans le fond, le setting, c'est comme les années 20. Okay? C'est une uchronie. C'est une uchronie dans le sens que c'est pas du tout le passé comme on le connaît. On est à la veille de plus des années 20-30. On est presque à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Okay.
Et dans le fond, les joueurs incarnent des super-héros au quotidien, des super-héros souvent très européens, très français, qui vont dans le fond être un peu les étendards et faire la promotion, si on veut, de leur pays, dans le sens que c'est pas un jeu de rôle où est-ce que les super-héros vont avoir des identités secrètes, sont souvent une représentation fière de leur pays. Exemple, la France a comme tel super-héros dans tel quartier à Paris, tout le monde le connaît, puis c'est genre lui le personnage principal, le super-héros le plus apprécié de ce quartier-là, par exemple. Et c'est une uchronie dans le sens que la Première Guerre mondiale, c'est pas vraiment passé comme on le pensait, dans le sens que il y a eu la découverte d'un nouveau élément dans le tableau des éléments qui s'appelle, je pense que c'est le radium, il faut que je recheck pour être sûr.
Okay.
Et le radium, en fait, c'est venu changer toute la patente. C'est venu apporter, dans le contexte du jeu, c'est venu apporter un aspect très steampunk. Dans le fond, l'univers, où est-ce que c'est une source qui peut être utilisée pour faire fonctionner des machines, pour construire des nouvelles technologies. Puis ça l'a vraiment poussé rapidement, on va dire, les possibilités en termes de fabrication, en termes de construction dans le setting.
C'est comme le nucléaire dans Fallout.
Genre, un peu comme le nucléaire dans Fallout. Fait que dans le sens que, même que souvent, on va dire que la brigade chimérique, ils appellent ça du radium punk, dans le sens que... Il va y avoir des zeppelins volants en métal qui vont fonctionner avec ça. Il va y avoir des gens qui vont avoir des armures à la Iron Man qui vont fonctionner avec ça. C'est pas vraiment le passé comme on le connaît. Et au travers de ça, ben justement, il y a des super-héros qui ont des origines diverses, que ce soit justement en lien avec le Radium Pug, genre des super scientifiques qui sont construits des machines pour pouvoir être des guerriers ou une origine plus magique parce qu'il y a vraiment un aspect aussi très ésotérique, si on veut, dans le jeu. Et fait que dans le fond, veux pas, le jeu est très ancré dans son univers. Tu peux pas vraiment jouer à la brigade chimérique sans être dans la brigade chimérique. Je sais pas comment je veux dire, c'est pas générique du tout. Là. Si tu joues à ce jeu-là, c'est tu joues dans l'univers de la brigade chimérique, parce que essayer de sortir vraiment le contexte du jeu, ça devient un peu bizarre. Tu peux pas vraiment...
Il y a un trop gros univers de bâti autour du jeu.
Oui, il y a une trop grosse implication.
Commencer à sortir, oui.
Ouais. Mais tout de même, pour l'avoir essayé, c'est très cool. C'est très... justement, c'est très années 20. C'est très... les années folles, mais avec genre... je peux dire des rayons avec mes mains.
Bioshock, un peu.
Oui, ben vois-tu, oui. C'est le fun que tu me dis ça, parce que ça me fait vraiment penser à Bioshock. Beaucoup.
Si vous aimez l'univers de Bioshock, qui est un univers vraiment cool.
Oui.
C'est ce jeu-là, là, vraiment. Oui. Ça a l'air vraiment cool.
Oui, et le système est super simple, dans le sens que c'est des D6. Dans le fond, et il y a beaucoup de possibilités de pouvoir, dans le sens que chaque pouvoir que tu veux avoir, mettons que tu penses à un pouvoir dans ta tête, moi je veux, ben, je sais pas, Francis, admettons, tu pars un super-héros, quel pouvoir tu voudrais avoir? Dis-moi une affaire.
Courir super vite.
OK, bon. Ça serait dans le fond, dans la catégorie, dans le fond, tous les pouvoirs que tu veux avoir se retrouvent dans une catégorie précise. Okay. Ça, c'est capacité surhumaine. Ça serait dans le fond, capacité surhumaine, courir super vite, ça irait là-dedans. Et, il y a comme plusieurs familles de pouvoirs. Et à chaque fois, dans le fond, que ton pouvoir peut rentrer en ligne de compte dans la situation, si le DM l'accepte, tu as comme des bonus que tu vas lancer pour, dans le fond, faire fonctionner ou non.
Je veux courir vite pour étourdir mon ennemi.
Oui, exactement. Okay. Et dans le fond, les pouvoirs ont des niveaux qui sont de 1 à 6. Et plus, dans le fond, le niveau est élevé, plus ton pouvoir est considéré comme élevé. Puis ils vont même expliquer, dans le fond, OK, ben tu as une capacité physique en lien avec, exemple, justement, la vitesse. Niveau 3, c'est quoi l'équivalent, à peu près? Ils vont comme y aller un peu comme ça. Là. Fait que, okay. Ça permet beaucoup de choses. Jamais, par contre, ça, c'est dit dans la prémisse de base, ton super-héros ne sera jamais un Superman, dans le sens que tu ne vas pas être too much. Dans le sens, ils ont comme step down le game, dans le fond, des capacités pour être sûr que ce soit le plus gérable possible dans les mécaniques.
Okay. Mais le fait que, justement, les super-pouvoirs viennent probablement du radium, puis il y a comme une ressource qu'il faut que tu utilises, justement, probablement pour utiliser tes super-pouvoirs.
C'est intéressant que tu dises ça. Parce que, en fait, il y a souvent dans ta création de personnage, tu peux décider que ton super-pouvoir a un élément négatif à celui-ci. Par exemple, le concept que tu dis, exemple du radium, ben, ce serait que, exemple, ton super-pouvoir, ben, il est mécanique, dans le sens que c'est pas quelque chose qui est en toi, c'est quelque chose que tu portes sur toi. Fait que c'est un élément négatif, tu pourrais le perdre, tu pourrais te le faire enlever.
Okay.
Mais tu sais, quand je dis exemple, je parlais du radium, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, ton personnage, ça peut être un homme poisson qui vient d'une cité sous-marine, mais ça n'a aucun lien avec le radium en soi.
Okay.
C'est le radium, c'est juste une des sources qui explique, dans le fond, les capacités.
L'univers, puis tout ça.
Il y a beaucoup de gens qui, dans le contexte du lore, beaucoup de gens qui ont développé leur pouvoir parce que leurs parents ont fait la Première Guerre mondiale, puis ont subi, dans le fond, des attaques chimiques sur eux autres dans les tranchées. Qui ont donné naissance à des personnes qui avaient des capacités surhumaines, par exemple.
OK, cool.
Fait que, non, pour de vrai, le setting est numéro un pour vrai, ce jeu-là. L'ambiance du jeu, le setting, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est beau, c'est très beau, c'est très French, par exemple, c'est très français dans son visuel, le genre de dessin, tout ça. C'est les dessins du jeu de rôle, c'est des cases qui sont reprises directement de la BD.
OK.
Fait que, c'est pas tant compliqué. Je trouve que c'est quand même une bonne prise en main. Malheureusement, ce n'est pas un jeu qui est facilement trouvable. De un, parce qu'il est fait par Sans Détour, qui est dans le fond une compagnie française qui est en train de cracher directement présentement. Vous pouvez aller voir sur leur page Facebook, puis leur compagnie est en train de tout perdre leurs droits. C'est eux qui avaient les droits de Call of Duty à la base et ils l'ont perdu, tout ça, parce qu'il y a des problèmes de paiement, etc. Bref, c'est difficile à trouver. Par contre, sait-on jamais. Des fois, je vois des annonces passer sur Internet de gens qui disent qu'ils vendent dans des groupes particuliers de jeux de rôle. C'est vraiment pas impossible à trouver, ça existe. Et le deuxième jeu de rôle, l'autre jeu de rôle, le dernier que je voulais aborder aussi, on va dire plus précisément encore, ça s'appelle Hexagon Universe.
OK.
C'est un autre jeu de rôle français. Celui-ci, ce qui est plaisant, c'est qu'il vient, je ne sais pas présentement si c'est disponible, mais je sais que ça va être très prochainement, il va être possible d'acheter en PDF sur Black Book Edition.
OK.
Il va être disponible en PDF sur Black Book Edition. Moi, dans le fond, j'ai participé à la campagne de financement qu'ils ont eue il y a quelques mois, parce que dans le fond, ils sortaient une nouvelle édition du jeu, en quelque sorte, une nouvelle moulure qui reprend... Même setting, même concept, tout ça, sauf qu'ils vont vraiment spécifiquement mettre ça durant la Deuxième Guerre mondiale.
Okay.
Dans le fond, ça va être les personnages vont jouer les joueurs vont jouer des personnages, des super-héros qui sont dans la Deuxième Guerre mondiale. Hexagon Universe, c'est vraiment plus. Ça a un setting de base, ça a un concept de base, ça provient de des BD françaises, des comics français qui s'appellent l'Hexagon Universe, où est-ce que c'est, dans le fond, une version vraiment française, franco, des comics de Marvel datant de l'époque des années comme 90-80. Fait que c'est très super-héros glorieux, c'est très positif. Là. On n'est pas dans le Batman conflictuel ou qui se morfond, là, même s'il n'y a rien qui empêche de pouvoir le jouer dans ce sens-là. Mais il y a un concept de base, il y a un setting, sauf que contrairement, par exemple, à la brigade chimérique, le setting n'est pas tellement ancré dans les règles puis ancré dans le concept de personnage que tu vas te faire que tu n'es absolument pas obligé de jouer avec le setting. Tu peux jouer... Okay. Tu peux vraiment... Ce que je trouve vraiment cool avec l'Hexagon Universe, c'est que...
Tu peux le prendre et l'utiliser
à toutes les sauces. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. Tu peux le prendre, tu peux décider de le pitcher dans les années 20, les années 70, les années 70 EP aux États-Unis, des choses comme ça. C'est vraiment, tu peux le faire comme tu veux. C'est un système très simple. C'est un système très narratif. Faudrait, je ne pensais pas qu'il était narratif comme ça avant d'avoir les PDF du livre. Là. Ça se joue uniquement, encore une fois, avec des D6. T'as, on va dire, deux stats de base qui est comme un peu...
Pour un super-héros, vie. C'est...
Comment tu dis?
Pour un super-héros, c'est...
Ouais, c'est pas stats. Beaucoup. C'est pas beaucoup. En fait, comment je pourrais dire ça? C'est, tu vois-tu, je voulais ouvrir la fiche de personnage devant moi.
Parce pendant que tu fais ça, je constate que les Français sont très forts sur l'adaptation de contenu littéraire, que ce soit de bande dessinée, tout oui. Puis le transporter en jeu de rôle.
Ben oui.
C'est, puis probablement que c'est du fait qu'il y a eu depuis longtemps Casus Belli puis Black Book Edition qui sont là puis qui promouvoient le jeu de rôle sous plusieurs formes aussi, avec des éditions traduites puis des beaucoup de produits différents. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle... Tu sais, il y a des jeux comme Héros et Dragons que j'aimerais
oui.
découvrir plus. Je pense qu'il y a un jeu de rôle du donjon d'Albuck.
Oui,
je crois.
Ouais.
Il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations. C'est ouais. vraiment. Chaque fois que tu me parles d'un jeu français, ça me fascine tout le temps de voir à quel point ils sont forts là-dessus.
Moi, je les trouve très variés dans leur approche. Je trouve qu'ils ont vraiment un panel de choix, de possibilités, on va dire beaucoup plus variés. Je trouve qu'ils vont dans des sous-genres, des fois peu exploités, peu vus sur le marché, exemple américain. Je parle vraiment. À grosse échelle, parce qu'en grande échelle, parce qu'au final, dans le marché américain, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du RPG zine, là, comme un fanzine, mais RPG, mm-hmm. où est-ce que là, c'est il y a, tous les sujets y passent. Là, tu peux jouer, j'ai déjà tombé sur un petit zine où est-ce que le but, c'est que tu joues dans le fond des ratons laveurs qui fouillent dans des poubelles. Tu sais, fait que, il y a tout se peut.
Ouais.
Et là, j'ai ouvert la fiche de personnage. Fait que vois-tu, par exemple, t'as ton énergie qui représente tes points de vie, t'as ton audace qui représente en fait à quel point ta combativité en quelque sorte sur le terrain. T'as pas d'autres stats à part, exemple, on va dire vraiment plus, exemple, c'est pas le classique force, dex, consti, sagesse, intel, tout ça. C'est vraiment ces deux-là qui sont importantes. Mais après ça, t'as comme des compétences en quelque sorte.
Ils sont tes super-pouvoirs sûrement. Sont...
Non, même pas.
Ah non, okay.
Non, c'est comme plus, on va dire, au quotidien, que ce soit par exemple l'administration, science, politique, pilotage, des choses comme ça. Et dans le fond, puis après, t'as aussi tes pouvoirs.
OK.
Et dans le fond, à chaque fois que tu fais un jet, tu pognes dans un nombre de D6 qui équivaut soit à ton niveau dans ta compétence, un niveau dans ton pouvoir, si ton pouvoir, dans le fond, peut rentrer en considération dans le contexte du pouvoir, dans le contexte de l'action, je veux dire. Et tu vas lancer ta pile, c'est beaucoup de D6. Pour le réel, je checkais des affaires, je suis comme, hey, OK, 12 D6, faut que tu lances 12 D6. Je suis comme, OK. Mais tu lances un package de D6 et dans le fond, chaque 3 en montant, c'est une réussite, par exemple.
Okay.
Souvent, c'est l'exemple d'un niveau de difficulté 3. Fait que là, il faut que tu aies 3 réussites, c'est ton package de D6 que tu lances.
Okay.
Et c'est, ce qui est intéressant, c'est puis ça, pour avoir fouillé, je ne savais pas à la base, je ne savais pas au moment que j'ai kickstarté, j'ai backé le jeu. La personne qui a fait, dans le fond, le monsieur, j'ai oublié son nom, je suis désolé, on va mettre la personne dans les. Peut-être quand on va faire la publication. Le monsieur qui a fait les règles de la Brigade Chimérique, c'est le même monsieur qui a fait les règles pour Hexagon Universe. Fait que, okay. Au final, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent côté le fonctionnement des pouvoirs. C'est la même chose que dans la Brigade Chimérique, les pouvoirs dans ce jeu-là, ça fonctionne par famille de pouvoirs.
Okay.
Et il y a un niveau dans ton pouvoir, puis tu dis, OK, mais je suis au niveau 4 dans projection de rayons, ce qui fait en sorte que je peux faire genre jusqu'à telle affaire avec ça, par exemple. Et c'est très, très... C'est très simple, c'est très rapide en main, c'est très rapide comme jeu. C'est vraiment genre, OK, on a une gang de super-héros, puis OK, on va péter la gueule genre aux hommes serpents qui viennent de sortir dans toute la terre. T'sais. C'est très, très, très rapide. Là. On ne se casse pas du tout la tête. J'ai bien hâte de recevoir la version papier, parce que je vais avoir aussi la version papier. Et je trouve ça très cool de pouvoir essayer ce jeu-là prochainement, en fait, dans le setting justement, de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que ça peut être très intéressant. De voir justement l'espèce de petit super-héros style mission, infiltration dans une Allemagne nazie, des choses comme ça. Et pour avoir feuilleté vraiment le livre, je trouve ça vraiment, vraiment plaisant parce que des fois, puis ça c'est comme une petite parenthèse que je fais par rapport au contexte du super-héros, parfois aborder des sujets comme la Seconde Guerre mondiale en jeu de rôle, ça peut être sensible pour certaines personnes. Pour certaines personnes qui peuvent l'avoir vécu. Surtout, on va dire peut-être nous un peu moins au Québec, mais justement en France, où est-ce que ce jeu-là, c'est un jeu français, à la base, ça peut des fois...
Il était proche.
Il était proche.
Il était assis rouge.
Il était assis rouge, puis c'était pas loin, là. C'était fait pas longtemps tant que ça, là. Fait que ça, je trouvais ça cool parce que vers la fin de l'ouvrage, il y a la section 8 qui est conseil de jeu, qui, dans le fond, il y a vraiment... C'est super intéressant. Il y a une sociologie de la Seconde Guerre mondiale qui est abordée, dans le fond, du point de vue du jeu de rôle. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce jeu-là? C'est où leur limite? Et qu'ils comprennent, dans le fond, la situation, le contexte, que le but, ce n'est pas de recréer l'horreur, mais de plutôt voir les possibilités pour créer, en fait, du positif. Et il y a vraiment, il y a même un encadré où est-ce qu'ils disent, vous ne jouez pas des nazis dans ce jeu-là. Vous n'allez pas jouer des super-héros méchants qui jouent pour les nazis. Ce n'est pas pour ça qu'on a fait ce jeu-là. Enfin, ça, je trouvais ça cool.
Ouais.
Je trouve ça fun que...
Déjà, on prévient certaines sensibilités, puis on veut, c'est fait dans le respect.
Oui.
Ouais, ça, c'est cool, ça, qui a été vers ça.
Ouais.
Ce que je trouve le fun, c'est comme tu disais, ça ressemble au premier jeu que tu as déjà essayé, puis que tu lis ça, puis c'est fait par la même personne, puis que tu retrouves justement des éléments du premier. Ça, le jeu part déjà avec une bonne cote.
Oui, le jeu part une bonne cote. Et le fait qu'il n'est pas pris dans son setting, par exemple, justement, la brigade chimérique, ce que je peux faire, ce que je veux avec, ça, je trouve ça très cool. Mm-hmm. Je trouve ça vachement cool et j'ai bien hâte de l'essayer. Il y a beaucoup de trucs qui sont donnés. Sur, admettons que vous voulez faire, exemple, un scénario qui se passerait en Afrique, en Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale, des choses comme ça, des événements, des possibilités. Et il y a un concept qu'ils n'ont pas exploré dans la version de base de Hexagon Universe, mais qu'ils ont exploré dans la nouvelle moulure, qui d'ailleurs, je crois que je ne l'ai même pas nommé, mais ça s'appelle Hexagon les Partisans. C'est ça le nom.
Okay.
Et dans les Partisans, il y a un concept qui est mis en jeu, puis ça, je trouve ça trippant à mort, là. Ça s'appelle les uchronies possibles. Dans le sens où est-ce que...
On peut changer l'histoire?
Oui, en fait, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Tu sais, veux pas, il y a un petit setting de base qui est impliqué durant la Seconde Guerre mondiale, qui est impliqué, qui s'appelle, dans le fond, la singularité. Où est-ce qu'il y aurait eu... je sais pas si je ne veux pas me tromper dans le nom, mais je pense que c'est les événements de... Tunguska, événement de Tunguska. Okay? Les événements de Tunguska, c'est arrivé pour de vrai. C'est une gigantesque explosion qu'il y a eu en Sibérie en 1908, dans l'Empire russe. Là, et ça a fait un gros bam. Puis pour de vrai, encore aujourd'hui, les gens sont comme pas trop sûrs de qu'est-ce qui avait fait ça. Mais ça l'a fait, ça l'a laissé un gigantesque cratère. C'est-tu une météorite, c'est-tu une poche de gaz qui a pété, des choses. Le monde ne s'affaire. Ça, c'est vrai. Le contexte du jeu, eux autres, ils ont pris ça. Puis dans le fond, ils ont commencé à twister plein d'affaires autour de ça, des possibilités. Et que, dans le fond, c'était une espèce de bombe qui avait été placée là pour pouvoir, dans le fond, créer des uchronies. Et depuis cet événement-là, il y a des espèces de, ce qu'on appelle des espèces de fissures temporelles qui popent à gauche et à droite. Où est-ce que... ça devient vraiment métaphysique. Là. Ça, dans le fond, ça fait en sorte que dans le jeu, au-delà de jouer la Seconde Guerre mondiale, c'est possible, dans le fond, de régler des uchronies, ce qu'ils appellent. Ou est-ce que c'est exemple, tu vas te dire, OK, guys, on a détecté une uchronie dans le coin du Pacifique, sur telle île japonaise, il faut que vous ayez réglé ça. L'équipe arrive sur place et en rentrant sans nécessairement le savoir dans cette uchronie-là, ils sont dans une espèce d'univers alternatif où est-ce que, par exemple, le Japon a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et là, dans le fond, eux, ils peuvent décider d'essayer d'empêcher cet événement-là qui arrive à partir de l'uchronie, c'est-à-dire renverser la vapeur, ou de faire en sorte, ou de fermer l'uchronie, essayer de s'arranger pour pas que l'uchronie s'étende ailleurs dans le monde. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Et ce qui est cool, c'est que le livre, justement, chaque section du livre, que ce soit, exemple, qui aborde la France, l'Afrique, le Pacifique, l'Europe, ils mettent des possibilités d'uchronie. Ou est-ce qu'ils disent, OK, en Europe, ça serait cool.
Tu peux jouer un peu partout.
Ouais.
Puis, ah, c'est le fun, ça.
Oui. Ils disent, OK, en Europe, ben, genre, il y a ça qui pourrait arriver.
Est-ce qu'il y a une progression de personnage?
Il y a une progression de personnage.
OK.
Il y a une progression de personnage. Je te vois que je n'ai pas nécessairement tant lu encore ce bout-là. Il y a une progression de personnage sur genre l'évolution de ton personnage, côté ses motivations, côté ses pouvoirs. Ses pouvoirs peuvent évoluer aussi. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais ils peuvent. Et il y a aussi la possibilité de jouer, parce que ça, je trouve ça cool, de jouer un peu un genre de Batman, dans le sens que tu n'as pas nécessairement de pouvoir, mais tu as juste des gadgets ou genre tu es un expert en arts martiaux. Là, il y a comme tout le temps, c'est tout le temps le fun d'avoir dans ta gang de super-héros un dude qui n'a pas de pouvoir, mais qui est quand même cool. Fait que ouais, ça, Hexagon Universe, les partisans, ou Hexagon Universe tout simplement, ça devrait être disponible prochainement, je crois, sur Black Book Edition. Du moins, je suis persuadé parce que moi, j'ai reçu les PDF. Et les PDF sont c'est des vrais PDF, tu sais, qui sont pas scannés, là, dans le sens que c'est pas quelqu'un qui a pris ça chez eux. Ça a été monté pour. Fait okay. que d'après moi, ça va pouvoir être achetable. Puis je trouve ça vraiment le fun pour une game de un jeu de super-héros qui n'est pas trop compliqué.
Cool.
Oui. Fait que Hexagon Universe. Et j'en aurai un dernier, si on a le temps, que je vais vraiment aborder rapidement, juste parce que je trouve que le concept est vraiment cool. Celui-là, je ne l'ai pas démé, je l'ai joué une fois. Ça s'appelle Luchadores. Luchadores, en fond.
Luchadores, OK.
Ouais, tu joues...
Tu joues un lutteur.
Oh! Un lutteur mexicain dans une archipel imaginaire qui s'appelle la Los Murcielagos. Murcielagos, qui est dans le fond situé dans le triangle des Bermudes. C'est une espèce de mélange entre le Mexique, Cuba, Haïti et le Floride des années 60-70.
Okay.
Et dans okay. le fond, dans cette espèce de d'archipel-là, il y a une affaire qui s'appelle l'Espiral Grande, qui est comme une espèce de cercle dans le milieu de l'océan qui pitch des monstres. Dans le fond, le cercle va comme vomir des monstres à gauche et à droite. Et les Luchadores, dans leur costume de lutteur, s'en vont péter la gueule à des monstres ou à genre des vampires.
Ah, ça devait être le fun.
C'était le fun. Pour le reste, c'était le fun. C'était le fun. C'était un petit peu plus compliqué que je pensais, pour de vrai.
Okay.
Le système de combat est quand même particulier dans le sens que t'as des signatures de combat, t'as des enchaînements, t'as des phases de lutte qu'il faut que tu fasses. T'as même un finisher, en quelque sorte, que tu peux faire, exemple, à la créature contre qui tu te bats. Puis tu sais, il y a des tag team, puis des techniques. Les techniques d'équipe. Tu sais, le setting est A+, le setting est vraiment cool, mais le
c'est absurde, mais en même temps, c'est...
Ah, man, c'est juste la fun. C'est juste la fun. Par contre, c'est ça, le système était un peu plus compliqué que je pensais pour le reste. C'est un peu plus crunchy, mais par contre, ça vaut vraiment la peine de le voir. Et ça, je crois aussi qu'il est probablement disponible en PDF. PDF, parce que
On va trouver ça.
Il existe une version française, mais il existe une version anglaise aussi.
OK.
Fait que bref, c'était mon dernier. Cool.
En terminale, y a-t-il un univers de super-héros que tu voudrais voir transposé en RPG?
Oui. Ben en fait, avant, oui. C'est pas vraiment un univers de super-héros. Je te dirais que c'est oui, en quelque sorte, un univers de super-héros, mais c'est plus gritty, tourné un peu vers le fantastique. Vers le folklore, ça s'appelle Hellboy.
Ça sent bien.
Mais pour de vrai, tu me demanderais n'importe quoi, puis ça serait ça ma réponse quand même. C'est, je veux dire, je ferais une campagne, exemple, d'Hexagone, les partisans, puis ça serait probablement à la
sauce Hellboy. Il y a un peu Hellboy. De ça, de ce que tu me parles. Il y a sûrement une espèce de... Ben, il y a un petit côté de ça, tu sais.
Ben oui.
Mais moi, un univers de super-héros que j'aimerais... Je pense que l'univers de Constantine pourrait être très cool aussi.
OK. Ouais.
Ça vient d'ici, mais tu sais, l'espèce de personne qui, par ses connaissances religion, des cultes religieux, des sectes, peut expier le diable et le démon. Puis il y a cette espèce de. Je sais pas, il y a probablement un jeu qui ressemble à ça en ce moment. Hey,
encore une fois, je pense que c'est quasiment le genre de truc que tu vas pouvoir faire avec Hellboy en quasiment. Là.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais j'aime toute l'idée dans Hellboy de peut-être trouver des reliques. Là, tu sais, genre,
ouais, vraiment.
Les
vraiment.
Doigts d'un pape là, qui fait. Genre...
Ouais, puis utiliser ça pour. Ouais. Whatever, là. C'est vraiment cool. Hey, dernière chose, pour d'ailleurs, avant qu'on termine, ça, je voulais te le montrer parce que je l'ai reçu physiquement. Et je vais te montrer ça. J'ai reçu Vain Essen.
OK.
Qui est dans le fond un jeu de.
De Free League.
De Free League.
T'es pas fan de Pantoute,
Pierre. Non, je suis pas fan de Pantoute. Toute beauté. C'est un jeu de. C'est du Nordic Horror Role-Playing.
Ah, c'est ça.
Dans le fond. Et justement, tu me fais penser à ça parce que je voyais des gens dans le post sur Facebook de ce setting-là. Je suis comme sur un groupe Facebook de ce jeu-là. Et le monde disait que ça serait cool. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler, dans le fond, sur une adaptation du setting de l'univers de Hellboy dans ce jeu-là. Parce que ça donne très bien. Parce que le concept de ce jeu-là, c'est que tu combats. Tu ne faut pas combattre nécessairement des monstres, genre, tu vas pas juste combattre des vampires puis des ghouls, c'est que c'est beaucoup tourné vers le folklore, fait que c'est des fées, c'est des fées du folklore, où est-ce que j'ai, ben, ok, ben, ce monstre-là, pour le battre, ben, on peut pas vraiment le tuer, il faut qu'on l'enferme dans une boîte, puis il faut qu'on accroche sa boîte 16 sabots de cheval, t'sais. Tu vois, genre, là, c'est okay, vraiment, okay. C'est très précis, puis c'est très tourné vers les connaissances du folklore, puis je trouvais que ça faisait très Hellboy aussi.
Ça pourrait être un très bon sujet, ça, des jeux de rôle inspirés de folklore de peu partout à travers le monde.
Oui, vraiment.
Ça, c'est une suggestion, mais si vous avez des suggestions de choses que vous voulez qu'on parle, le lien est dessus. Mais prenez le temps de nous écrire dans les commentaires. Dites-nous votre dernier coup de cœur, qu'est-ce que vous voulez qu'on explore, tout ça. Pierre-Philippe et moi, on travaille beaucoup sur vous présenter bientôt des choses, du tangible, des parties de jeux de rôle, des trucs comme ça. Donc, à suivre. C'est pas. C'est ça. Merci beaucoup, Pierre-Philippe, comme ben, d'habitude.
Merci à toi encore. Aussi,
la Bible, Pierre-Philippe. vous venez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Coup Critique CA pour Coup Critique Canada. Coup Critique CA, vous venez nous trouver un peu partout avec ça. On est disponible sur toutes les plateformes audio. On est disponible sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. De plus en plus, il va y avoir du contenu qui va être exclusif sur la chaîne YouTube et qui ne sera pas sur Facebook. On veut varier un peu où est-ce qu'on est un peu partout puis offrir différents types de contenus. On va probablement peut-être travailler sur d'autres plateformes aussi dans pas long. On va vous tenir au courant de ça. Merci beaucoup d'être là encore. Merci de votre amour. Merci de participer à toutes nos affaires. On capote. C'est vraiment cool. Parlez-en. Parlez-en aux gens que vous aimez, qui trippent sur le jeu de rôle, qui ne connaissent peut-être pas encore notre projet. Sur ce, bonne partie. Jouez prudemment. Jouez en ligne. Jouez avec votre famille. On va se dire à la prochaine.
À la prochaine. Je pense que ça va être à la prochaine.
Ouais. Bye.
Bye.